Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Ella Wardi est professeure de littérature et de civilisation française à l'université de la Manouba à Tunis, chercheuse associée au sein du laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS à Paris. Elle a également occupé les fonctions de directrice générale du livre au ministère de la Culture tunisien de septembre 2016 à janvier 2018. Ella Wardi a publié au printemps chez Albin Michel La Déchirure, premier tome d'une saga en 4 volumes qui a pour titre générique Les Califes Maudits, un ensemble de textes qui plonge le lecteur aux origines de l'islam. Une partie de l'entretien qu'elle nous a accordé a été diffusée au moment de la sortie du livre, en avril dernier. En voici une version différente et enrichie. Bonjour Ella Wardi.
Bonjour Éric Bataillon.
La tradition classique et rigoriste musulmane a l'habitude de qualifier le règne des 4 premiers califes, dont vous parlez, de période idyllique. Est-ce aussi ce que vous avez découvert en puisant aux sources officielles mais méconnues des textes sacrés ?
Alors, je ne préfère ne pas être à l'opposé de cette vision mythifiée, cette vision idéalisée des 4 premiers califes en disant non, ce sont des méchants. Non, parce que mon but n'est pas de faire leur procès. Je préfère sortir de ce schéma manichéen dans lequel les personnages de l'histoire sont classés en bons et en méchants.
Et ce n'est pas ce qu'on lit dans le livre d'ailleurs.
Du tout, absolument pas. J'essaie de souligner dans le livre tous les enjeux politiques et aussi psychologiques qui ont conduit les compagnons du prophète à inventer cette institution inexistante dans l'histoire. Elle est inédite. Ils l'ont bricolé devant une situation de vacance du pouvoir, devant une urgence, dont j'explique aussi les tenants et aboutissants. Ben, ils devaient faire avec. La monarchie de droit divin n'est pas non plus, n'existe pas dans la nature, elle a été créée. Et ce qui n'existe pas, on l'invente. Et les compagnons du prophète n'ont fait qu'une, inventer une institution politique ad hoc, ou sui generis, si vous voulez, correspondant à leurs besoins du moment. Donc, je ne vais pas dire qu'ils sont des méchants ou des gentils, que c'est des usurpateurs, etc. Parce que parler d'usurpation signifie qu'il y a d'autres personnes qui avaient plus de légitimité qu'eux. Je ne me situe absolument pas sur ce plan de la condamnation. Je choisis le motif de la damnation, de la malédiction, comme motif littéraire archétypal, comme dans l'Antiquité, la malédiction des Atrides, pour montrer qu'en fait, il y a quelque chose d'énigmatique dans la destinée tragique de ces 4 hommes, morts tous, sauf le premier, et encore, d'une mort très violente, tué par des musulmans d'ailleurs. Et il m'a semblé que enrouler la tragédie de leur règne autour de la malédiction de la fille du prophète, ce n'est pas pour expliquer pourquoi ils ont tous mal fini, mais en fait pour dire que il y a une part toujours de mystère dans l'histoire. Ce sont des hommes qui ont vécu dans des circonstances bien précises et leurs besoins du moment les ont conduits à faire certains choix.
Et leurs relations avec le prophète, avec Mohammed, de quelle nature sont-elles ? Ce sont des compagnons ou ce sont des membres de la famille ? Ou les deux peut-être ?
Les deux, en fait, les compagnons de Mohammed. Déjà, ils appartiennent tous à la même tribu. Donc le lien familial est toujours là. Hein. Il y a bien sûr la famille proche et aussi il y a les membres du clan du prophète, de sa tribu.
Les 4 califes, ce sont Abou Bakr, Omar, Othman et Ali.
Et donc, ces 4 hommes sont liés au prophète par des liens de famille, mais pas n'importe quel lien de famille. Ils sont liés à lui par les femmes. Les deux premiers, Abou Bakr et Omar, sont ses beaux-pères, c'est-à-dire les pères de ses femmes, la célèbre Aïcha et la non moins célèbre Hafsa. Et les deux autres califes, le troisième et le quatrième, Othman et Ali, sont ses gendres.
Notamment Ali, le mari de Fatima.
Et surtout, alors là, lui en plus, il a un autre lien qui le met en position, c'est ce que d'ailleurs les chiites disent, qui lui donne un privilège absolu sur les autres, c'est qu'il est en plus son cousin, son petit cousin et quasiment son frère, puisqu'ils ont été quasiment élevés ensemble. Et que le père de Ali, quand le prophète est devenu orphelin, a pris son neveu sous son aile. Et l'une des choses qui ont meurtri profondément le prophète, c'est que Abu Talib, donc le père de Ali, qu'il considérait un peu comme son père, n'a jamais accepté de se convertir à l'islam.
El Awardi, votre livre précédent s'achevait avec la mort assez mystérieuse de Mohammad. Celle-ci commence avec un conclave dans la Sakifa, sorte de salle de réunion, salle des fêtes à Médine. Est-ce là que se joue la succession du prophète et entre qui et qui?
Ah, c'est un véritable huis clos au sens dramaturgique du terme. Et là, il y a deux camps qui vont s'affronter. Je schématise un peu. Il y a bien sûr à l'intérieur de ces deux camps, il y a quelques aussi nuances.
On pourra le lire d'ailleurs dans le livre.
Alors, le premier camp, c'est le camp qu'on appelle les Ansar, qu'on traduit
les
souvent par auxiliaire. Moi, je préfère plutôt adjuvant. Et face à eux, il y a les émigrants. Alors, qui sont les Ansar? Ce sont les natifs de Médine, là où le prophète a fait son émigration. Les émigrants, ce sont des gens de Quraysh, la tribu du prophète, qui sont natifs de la Mecque et qui ont fait l'exil avec lui, qui l'ont suivi dans son exil. Les deux camps vont s'affronter pour régler la question de la succession et l'objet de la discussion, c'est qui a le plus de mérite. Et le mérite, ce n'est pas ni l'argent, ni la généalogie, c'est le mérite religieux. Et le mérite religieux est confondu chez eux avec l'ancienneté. C'est-à-dire qui a été musulman avant les autres. Pourquoi? Parce que les émigrants qui se sont convertis à l'islam à la Mecque quand Mohammed était en position de faiblesse, qu'il était persécuté, menacé de mort, eux, ils ont quand même fait un énorme sacrifice avec lui en acceptant de le suivre. Ils ont pris des risques, notamment Abu Bakr, qui était parmi, sans doute le premier à avoir suivi Mohammed. On l'a surnommé à la Mecque Abu Bakr le fou. Parce que comment il a fait pour suivre cet homme qui est en train de nous dire qu'il faut renoncer à nos idoles, etc. Et donc, ce camp des immigrants, ils se vantent devant les Ansar qu'ils ont beaucoup plus de mérite qu'eux, et que c'est naturel qu'ils soient le successeur du prophète, soit désigné parmi eux. À cela s'ajoute un argument tribal, lui, anti-islamique. C'est un autre paramètre qui va entrer en jeu. C'est qu'ils appartiennent tous à la tribu de Quraysh, qui est la tribu la plus prestigieuse de l'Arabie. De l'autre côté, l'argumentation des Ansar, qui ne manque pas de pertinence, ils disent, c'est vrai, vous avez été musulmans avant nous, mais n'oubliez pas que sans nous, Mohammed aurait été sans doute tué, et vous avec lui. Et donc, c'est grâce à nous, grâce au soutien qu'on a apporté à Mohammed et à tous ses adeptes, que l'islam a pu s'installer et s'imposer à toute l'Arabie. Donc, il y a un combat entre les deux camps, jusqu'à un moment donné, d'ailleurs, c'était des négociations assez apaisées, où il y avait de véritables pourparlers. Les gens de Médine, les Ansar, avaient un argument massif qui était quand même, ils sont chez eux, hein. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'un homme venu de la Mecque s'impose comme leur chef, parce que dans le système tribal, on est très jaloux de la souveraineté de son clan. Et les autres aussi se disent, nous sommes quand même les plus proches du prophète, et il n'est pas question qu'on laisse le pouvoir nous échapper.
S'agit-il là d'un enjeu de pouvoir et rien d'autre?
Non. L'enjeu de pouvoir est vraiment l'aspect qui est visible à l'œil nu. Mais il y a aussi, pour les émigrants notamment, un enjeu de survie. Les émigrants eux-mêmes ont sans doute réalisé que l'enjeu n'était plus seulement de savoir qui avait la priorité, mais que s'ils sont chassés de Médine, ils ne pourront aller nulle part, puisque même le retour à leur ville d'origine, c'est-à-dire la Mecque, n'était pas envisageable, puisque à la Mecque, ils ne seront pas les bienvenus, bien que la Mecque ait été conquise, etc. Mais les Mecquois n'ont pas oublié que ces compagnons-là leur ont fait la guerre, parce qu'il faut rappeler aussi que le prophète a eu beaucoup, beaucoup de mal à convaincre les hommes de sa tribu de se convertir à l'islam.
Orient Hebdo sur RFI.
Alors, Abu Bakr remporte finalement le morceau, si on peut dire les choses de façon aussi triviale. Néanmoins, il a Par ailleurs, obtenu cette charge de premier calife au nez et à la barbe de la famille de Mohammed. Et là, c'était aussi une autre bagarre qui s'est jouée à l'intérieur même des émigrants.
Une bagarre essentielle, parce que je pense que cette bagarre-là a semé la première graine qui va pousser plus tard pour aboutir à un schisme, à une rupture irréversible du monde musulman entre sunnites et chiites. C'est les compagnons versus la famille. Mais je tiens à préciser que pour Abou Bakr, les choses étaient dramatiques parce que lui-même, il ne voulait pas être calife. C'est le calife malgré lui. Et il a démissionné, il a présenté sa démission à plusieurs reprises. Et comme c'était une personnalité consensuelle, qu'il était respecté, hein, il n'était pas légitime aux yeux de nombreux musulmans, mais c'était un homme digne de confiance. Il avait une certaine image qui suscitait l'estime. Déjà, il était très pieux. C'est un homme très très pieux. Et en plus, donc le combat avec la famille va le mettre dans un engrenage absolument horrible, c'est qu'il va s'affronter avec Fatima.
Justement, Fatima semble être l'adversaire principal et peut-être omniprésent d'Abou Bakr, ce qu'il regrettera d'ailleurs peut-être par la suite.
Il est jusqu'à la mort, il va regretter cela. Moi, je la compare à Antigone, qui entre en conflit ouvert avec le successeur de son père, pour des questions aussi de loi, de respect de la loi, parce qu'elle a été déshéritée par le calife Abou Bakr. Donc non seulement on n'a pas accepté d'associer la famille du prophète déjà au pourparler autour de la désignation du chef, et en plus, circonstance aggravante, le calife, parce qu'il avait besoin de remplir les caisses pour mener un combat contre les autres tribus arabes qui, elles aussi, n'ont pas accepté son élection, entre guillemets. Et là, il prive Fatima de son héritage financier, notamment donc cette fameuse oasis de Fadak. Et c'est là où la malédiction va être proférée.
Malédiction qui est le titre, la troisième partie de votre ouvrage. Cette malédiction, c'est une façon pour Fatima de se venger post-mortem, si je puis dire, puisqu'elle est morte quelques mois après son père.
Oui, même quelques semaines, très rapidement, pratiquement morte de chagrin devant l'injustice qu'elle a subie. Bien sûr, sur le plan explicite, la malédiction a été adressée à Abou Bakr, parce que certainement il l'a beaucoup déçu. Comme il était un homme très respecté et respectable, peut-être qu'elle attendait de sa part une attitude plus magnanime. Mais par ricochet, c'était tous les autres, parce qu'ils ne l'ont pas défendu.
C'est un tournant politique à ce moment-là?
Tournant politique, je dirais même un tournant ontologique dans l'histoire de l'islam, puisque c'est la femme persécutée qui va en fait être à l'origine de cette succession d'événements funestes qui ont ponctué les premières années de l'instauration du califat.
Est-ce que cet événement avec Fatima aide à comprendre certains antagonismes qu'on peut observer en 2019 au Moyen-Orient?
Clairement, en tout cas j'espère. Je n'en parle pas directement dans le livre, mais j'espère que le lecteur va tout de suite faire des correspondance avec l'époque actuelle. Et de toutes les façons, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, je n'aurais pas écrit un livre sur le premier califat de l'islam s'il n'y avait pas Daesh dans mon champ de vision. Le besoin d'aller explorer cette période de l'histoire vieille de 14 siècles est né de mes préoccupations en tant que femme vivant en 2019, en tout cas qui a été témoin de la naissance de Daesh en 2014. Donc, on n'écrit pas l'histoire simplement par divertissement ou parce qu'on doit faire une enquête comme une enquête de police pour désigner des coupables ou innocenter des accusés. Non, on écrit l'histoire du point de vue du présent parce que je fais partie des gens qui croient fermement que l'histoire qui n'a pas été élucidée, qui n'a pas été analysée, est appelée à être répétée. Et dans sa répétition, la tragédie se rejoue, et elle se rejoue parfois d'une manière encore plus violente.
À lire donc cet ouvrage passionnant, Les Califes maudits, la malédiction, édité chez Albin Michel, un livre qui ouvre un cycle historique, on l'a dit, puisqu'il s'accompagnera dans les prochains mois de quatre autre tome, sur quel thème est Lawardi ?
En fait, chaque tome sera consacré à un calife. Le prochain, il s'intitule « À l'ombre des sabres », clin d'œil à l'ombre des jeunes filles en fleurs, hein, quasiment comme une antiphrase. C'est le règne du premier calife, Abou Bakr.
Alors, il n'existait apparemment aucune monographie sur ces quatre premiers califes de l'imam successeur du prophète. Apparemment, il y a pourtant de nombreux textes, vous nous l'aviez dit en démarrant cette émission, qui les concernent dans la tradition. Est-ce que mieux les connaître, ces textes, est-ce y voir un peu plus clair sur le malaise que connaît l'islam contemporain ?
Non, les travaux existent. Les travaux existent, ils sont vraiment très nombreux. Simplement, je pense, je ne veux pas m'attribuer un mérite que je n'ai pas, mais je pense que la méthode que j'ai suivie, celle de présenter les choses sous la forme d'un récit historique, c'est-à-dire accessible à un grand public, a permis à tous les chercheurs depuis, disons, allez, au moins le 19e siècle, aussi bien en Europe que dans le monde musulman, qui ont été extrêmement sensibles à l'importance de cette période de l'histoire. Il y a des livres absolument fabuleux, écrits en arabe. Malheureusement, leurs auteurs subissaient des intimidations, n'avaient pas vraiment d'audience auprès du grand public. Et moi, j'espère, en tout cas dans la méthode que j'ai choisie, celle du récit historique. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'inventer, de faire appel à mon imagination, puisque dans les moindres détails, la tradition grouille d'informations, même pour le portrait physique des personnages qui sont en action dans cette période de l'histoire. Donc, la nouveauté, si je dois vraiment, mais c'est très gênant de parler de son propre travail, de son apport personnel. Si apport il est plus dans la forme que dans le contenu. Sincèrement, parce que les spécialistes connaissent par cœur, tout ce que j'écris, mais peut-être le rendre accessible à un grand public, peut-être que ça permet de mieux connaître ces travaux de grande érudition qui ponctuent l'histoire de l'orientalisme et aussi l'histoire des mouvements réformistes dans le monde musulman et qui, hélas, ont toujours été mal vus, persécutés. Il y a même, on est allé jusqu'à les accuser d'apostasie. Voilà.
Justement, le fait que votre travail et ses ouvrages soient connus par le plus grand nombre dans le monde arabo-musulman, est-ce que, bon, c'est un objectif. Pour l'instant, par exemple, votre premier livre, Les derniers jours de Mohammed, a été publié déjà en Algérie. Je crois que c'était l'an dernier. C'est un premier pas. Est-ce que d'autres pas sont faits ou vont être faits prochainement?
Oh, j'espère. En tout cas, maintenant, le livre se vend très bien et il a une très bonne, réception. C'est donc en Tunisie d'abord, dès les premières semaines de sa sortie, ensuite au Liban. Et récemment, comme vous l'avez rappelé, en Algérie. J'espère que, de toute façon, ce qui est très bien maintenant, c'est que le livre a circulé malgré les interdictions. C'est que, en fait, les autorités politiques ou religieuses perdent le contrôle. Mon livre a été lu dans des pays musulmans où il a été interdit, mais officiellement interdit, comme au Sénégal. Pourtant, il a été retiré des librairies, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de collègues sénégalais, de lecteurs sénégalais qui m'ont écrit d'abord pour me dire qu'ils sont absolument consternés par cette décision de retirer le livre du marché. Mais ils m'ont dit il y a une demande extraordinaire. Il y a bien sûr les versions piratées sur Internet, mais là, c'est une circonstance atténuante. On ferme les yeux, c'est bien de pirater les livres dans ces conditions-là, si on peut contourner la censure. Et aussi parce qu'en fait, les gens ne veulent plus être pris pour des enfants à qui on donne des ordres. Lis ça et ne lis pas ça. Cette infantilisation des musulmans doit absolument cesser.
Merci et Lawardi.
Merci à vous, Éric Bataillon.
À lire ce premier tome des Califes maudits, La déchirure, publié chez Albin Michel. Le second tome, À l'ombre des sabres, est attendu pour cet automne. Merci à Mathias Golchani qui réalise et met en onde Orient Hebdo chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. À demain, dans quelques secondes, le journal.